on a appris cette semaine, ou en fait la semaine dernière, il y a deux semaines, l'arrestation d'une cadre de l'entreprise Huawei à Vancouver, vous le savez maintenant, en vertu d'un accord d'extradition avec les États-Unis. La Chine a tout de suite sommé le Canada de libérer la dame en question, Mme Meng Wanzhou. Ils ont arrêté et détiennent actuellement deux diplomates canadiens. Ça commence à ressembler à un film, un bon thriller, un film de suspense.
Puis s'il y a un extraterrestre de mélanger, c'est X-Files. Là.
Ouais,
on
c'est
est,
ça.
On est tout juste à côté.
Pour l'instant, on reste dans ce qui est quand même un vrai conflit diplomatique entre le Canada et la Chine à l'heure actuelle. Et pour faire le point, on discute avec Éric Arsenault, professeur d'actualité internationale au cégep de Jonquière. Professeur Arsenault, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Salut. Ma première question, professeur Arsenault, je comprends pas pourquoi ce sont les États-Unis qui reprochaient à Huawei et à Mme Meng d'avoir bafoué l'embargo qu'il y a sur l'Iran et donc ce qui a mené à son arrestation. On dit que c'est comme si les États-Unis avaient demandé au Canada d'arrêter la dame en question, mais c'est le Canada qui subit les contre-coups de la part de la Chine. Quel est le rôle de tous et chacun là-dedans?
Ben, je pense que tu analyses très bien la situation, Paul Raphaël, parce que carrément dans ce cas-là, le Canada est otage des tensions entre les États-Unis et la Chine. À la limite, ça revient à dire que les Américains font faire la sale job actuellement par les Canadiens et que le Canada sert un peu de paratonnerre à la colère des Chinois, parce que vous savez qu'à la suite de l'arrestation de Mme Meng, les Chinois l'ont évidemment pas pris, ont dénoncé cette arrestation comme étant une arrestation politique, ont réclamé sa libération en sachant pas ou en faisant semblant de pas savoir qu'au Canada, les systèmes judiciaires, les tribunaux ne sont pas à la solde du pouvoir, comme c'est le cas en Chine. Et finalement, on a vu cette semaine l'arrestation en Chine de deux ressortissants canadiens. Alors, c'est comme si, quelque part, les Chinois répliquaient à ce que les Américains ont demandé aux Canadiens, mais au lieu de viser les Américains qui sont à l'origine de la demande d'extradition, le Canada ne fait que donner suite, dans le fond, à la demande faite par les Américains, la demande d'extradition, mais c'est comme si c'est le Canada qui payait, dans un sens, pour ce que les Américains font aux Chinois avec cette demande d'extradition de Mme Meng.
Et qu'est-ce que le Canada doit faire pour se sortir de ce conflit-là? Parce qu'on s'attend que, quand vient le temps de, au jeu des sanctions économiques, là, le Canada ne gagnera jamais vraiment contre la Chine.
T'as parfaitement raison, et c'est probablement la raison pour laquelle la Chine s'en prend au Canada plutôt qu'aux États-Unis. C'est que le Canada est un joueur faible. C'est pas une menace comme l'est, par exemple, les États-Unis et les Américains. Tu me dis comment faire pour s'en sortir? Le Canada est vraiment, et le gouvernement Trudeau, dans une position très inconfortable là-dedans. Parce que première des choses, on peut pas court-circuiter le processus d'extradition qui est en cours. L'indépendance des tribunaux, même si je le disais tantôt, les Chinois ont du mal à le comprendre. Ouais. On peut pas faire d'entourloupette avec ça. L'autre défi pour le Canada, c'est de ne pas indisposer les Américains. Bon, on connaît les sautes d'humeur de Donald Trump, on sait que de temps en temps, ça nous agace, mais le Canada et les États-Unis sont quand même deux alliés, deux partenaires économiques qui sont importants. Et si les Américains demandent au Canada d'émettre et de délivrer un mandat d'extradition et d'arrêter quelqu'un aux États-Unis qu'on soupçonne d'avoir commis des gestes illégaux, des infractions, le Canada peut pas se défiler.
Ouais.
L'autre problème, c'est que le Canada, depuis quelques mois, est en négociation, en tout cas, essaie d'amorcer les négociations d'un traité de libre-échange avec la Chine, et cette histoire-là risque de mettre du sable dans l'engrenage. Bref, le gouvernement canadien, là-dedans, est perdant sur à peu près toute la ligne.
D'ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a tardé à prendre la parole, alors que Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, lui, a quand même défendu le Canada hier en disant que la détention des deux diplomates était inacceptable. Mais il n'y a pratiquement rien eu avant, si j'ai bien compris, hier soir, là, où Justin Trudeau aurait commenté cette affaire-là.
Exact. Puis tu as parfaitement raison. Le gouvernement canadien a été très lent à réagir dans un certain sens, surtout à l'arrestation des deux Canadiens en Chine. Puis il y a une raison probablement à ça, c'est que le Canada voulait éviter de mettre de l'huile sur le feu en essayant, comme certains l'ont fait. Puis honnêtement, là, ce serait une coïncidence absolument phénoménale que ces deux Canadiens en Chine soient arrêtés pour des raisons de sécurité nationale, soi-disant, sans qu'il y ait aucun lien avec l'arrestation de Mme Meng. C'est carrément, tous les spécialistes ou les experts le disent, c'est carrément de la part des Chinois une manœuvre de représailles à l'égard du Canada. Ils l'ont déjà fait dans le passé, ils le refont encore aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant un peu, Paul Raphaël, puis je te soumets cette hypothèse-là, c'est que, dans un certain sens, on dit que les Chinois utilisent leur justice à des fins politiques, mais quelque part, part, dans cette histoire-là, on peut se poser des questions sur le comportement des Américains. Parce que Donald Trump a laissé entendre, pas plus tard qu'il y a deux jours, qu'il pourrait intervenir dans cette histoire-là et que la demande d'extradition pourrait être abandonnée si ça sert les intérêts économiques ou encore sécuritaires des Américains. Quelque part, ça envoie le message que les États-Unis se servent de cette demande d'extradition à des fins politiques, quelque part pour faire pression sur les Chinois, parce que vous le savez que les États-Unis et la Chine ont plusieurs contentieux, notamment la guerre commerciale, notamment le fait que Huawei, qui est la compagnie appartenant à Mme Wang, c'est un concurrent direct de Apple, puis on sait que Donald Trump veut protéger les intérêts américains, mais quelque part, on ne peut pas faire autrement que de voir ça comme étant une tentative par les Américains d'utiliser cette demande d'extradition pour faire pression sur les Chinois en matière commerciale, et le Canada se retrouve à être le dindon de la farce dans cette histoire-là.
Autre dossier dont je veux qu'on parle, professeur Arsenault, c'est ce qui se déroule aux États-Unis. L'ancien avocat Donald Trump, Michael Cohen, qui a fait ses premiers commentaires publics après avoir été condamné à 3 ans de prison, il a été reconnu coupable d'avoir orchestré le paiement de 280 000 $ à deux femmes, notamment Stormy Daniels, l'actrice porno qui a fait la manchette là, plus souvent qu'autrement, et de Karen McDougall, une ancienne playmate. Cohen aurait orchestré le paiement pour acheter le silence de ces deux dames-là. Au nom de Donald Trump, là, puisqu'il était son avocat, pour acheter leur silence pendant la campagne électorale de 2016. Voilà qui sort maintenant publiquement pour pointer Donald Trump du doigt. Je dis pointer du doigt, là, c'est quand même, c'est presque un euphémisme. Là. C'est littéralement un de ses plus fidèles alliés ou ex-alliés qui s'est maintenant retourné contre M. Trump.
T'as parfaitement raison, et c'est ce qui fait que Donald Trump est de plus en plus nerveux, parce que Michael Cohen, c'est pas un obscur subalterne, là, un second violon, c'était un membre de la garde rapprochée de Donald Trump. Il a été son avocat personnel, il a été aux côtés de Donald Trump pendant 10 ans, certains l'ont même présenté comme étant le bras droit de Donald Trump, et Michael Cohen vouait à Donald Trump une loyauté et une confiance à toute épreuve, et c'était en passant réciproque. Cohen avait même dit, il y a quelques mois à peine, qu'il serait prêt à prendre une balle si c'était pour protéger Donald Trump. Donc, c'est un intime de Trump. Il a été avec lui alors que Trump était homme d'affaires, alors qu'il était candidat et depuis qu'il était président. C'est pour ça, donc, que les démêlés judiciaires de Cohen et sa condamnation cette semaine, de même que ses déclarations, notamment hier, tu y faisais référence dans l'interview sur une chaîne de télé américaine, où Cohen dit carrément qu'il a agi à la demande de Donald Trump, que Donald Trump savait que c'était illégal et que de toute façon, rien de ce qui était fait au sein de la Trump Organization pouvait avoir lieu sans l'assentiment de Donald Trump. Quelque part, là, ça fait de Michael Cohen un témoin à charge particulièrement dangereux pour Trump. Et je te fais remarquer, Paul Raphaël, que, bon, il y a l'histoire des paiements pour acheter le silence là, de Stormy Daniels puis d'une ex-playmate, mais il y a également le fait que Cohen a été condamné cette semaine pour avoir menti au Congrès sur l'étendue des contacts qu'il avait eus au nom de Donald Trump avec les autorités russes pour un projet de développement immobilier à Moscou. Et ça, c'est d'autant plus embarrassant parce que ça nous ramène à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui enquête justement sur la collusion qui aurait pu avoir lieu pendant la campagne électorale entre l'organisation Trump et les autorités russes pour essayer d'influencer le vote des Américains.
Ouais, puis on a l'impression que Donald Trump est à l'abri de toutes les intempéries. Il scandale par-dessus scandale, il s'en sort tout le temps. Mais je me trompe-tu si je dis que l'affaire Stormy Daniels et compagnie, c'est peut-être quelque chose qui peut moins l'affecter, mais la collusion avec les Russes auprès de même sa base, ça peut peut-être être la chose qui passera pas. C'est encore frais dans la mémoire de bien des gens, la guerre froide, la Russie, c'est l'envahisseur communiste. Ça, c'est encore quelque part dans la tête de bien des Américains. Est-ce que c'est pas la chose là qui pourrait faire tourner le vent de bord?
Je te donne entièrement raison. Cette affaire-là est particulièrement embarrassante pour le président. Et d'ailleurs, tu remarqueras que l'enquête du procureur spécial Robert Mueller de plus en plus se rapproche du bureau Aval. Parce que je te fais remarquer qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont gravité dans l'entourage de Donald Trump, qui ont été accusées, qui ont été condamnées, ou encore qui collaborent actuellement avec le procureur spécial dans l'espoir d'alléger la peine. Alors, quelques vire capot. Et d'ailleurs, c'est la stratégie adoptée par Michael Cohen qui a décidé de collaborer avec la justice l'été dernier. Donc, l'étau se resserre autour de Donald Trump, l'enquête se poursuit et Trump est de plus en plus nerveux. Il faut voir, Paul Raphaël, la quantité de tweets rageurs de Donald Trump qui discréditent l'enquête de Robert Mueller, qui compare ça une chasse aux sorcières. Encore cette semaine, il disait, évidemment, avec grand renfort de mensonges, que ça coûtait une fortune, cette enquête-là. Et là, si les taux se resserrent autour de Donald Trump, ça va peut-être se resserrer autour, là, là, pas juste de second violon puis de sous-fifle, là, ça va se resserrer autour, par exemple, de son fils, Donald Jr., dont on sait qu'il y a eu des contacts avec les Russes.
Ouais.
Ça va resserrer les taux également sur Jared Kushner, son gendre, le mari d'Ivanka, qui lui aussi a eu des échanges avec les Russes. Alors, bref, tranquillement, pas vite, là, Robert Mueller est comme une araignée là, qui tisse sa toile et on se rapproche de plus en plus du bureau ovale. Moi, je pense que l'année 2019, Paul Raphaël, là, j'ai pas de boule de cristal, je vais pas te faire de prédiction, mais l'année 2019 risque d'être déterminante parce que c'est probablement là que le chat va sortir du sac dans le cas de l'enquête Robert Mueller.
Quand on commence à parler de la famille, puis des liens familiaux, puis avec les noms de l'un puis de l'autre, professionnels, j'ai l'impression qu'on est dans un mauvais téléroman, dans un mauvais soap américain. Un tel oui. Est le gendre de l'autre, puis là, l'enquêteur un tel a questionné tel autre, puis c'est complètement fou.
T'as parfaitement raison, mais depuis le début, Paul Raphaël, cette présidence-là, la présidence Trump, c'est une véritable télé-réalité. Donald Trump n'est pas différent depuis qu'il est au bureau ovale, depuis qu'il est à Maison-Blanche, de ce qu'il était à l'époque des Apprentice.
Ouais, c'est
exactement la même chose.
Ouais, ouais.
Certains vont même jusqu'à dire qu'il s'est donné le rôle principal d'une nouvelle télé-réalité qui se déroule à la Maison-Blanche et qui, au-delà du fait que c'est réel, là, est tout à fait fascinante. Honnêtement, pour un observateur, pour quelqu'un qui est curieux, c'est hallucinant, c'est fascinant de les voir aller.
Fascinant, c'est le bon mot. Merci, merci, prof Arsenault.
Fait toujours un plaisir. Bye bye.
Bon week-end. Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière.